Merci beaucoup, Matteo. Je suis très content d'être à nouveau avec vous. C'est un dialogue qui continue depuis quelques temps et voilà, très fertile pour moi. J'espère également pour vous. Et j'ai changé un petit peu le titre de mon intervention pour un peu pour justifier aussi la période concernée par mon intervention et pour être plus centré sur la première moitié du XXe siècle. Donc le titre c'est Biopolitique, technologie, écologie, un parcours à rebours à partir de Foucault et Canguilhem. Et je vais justifier bientôt ce titre. Donc, Michel Foucault définissait les formes biopolitiques des gouvernements constitués entre la fin du XVIIIe et le XIXe siècle en tant que technologies politiques de régulation sociale. Ces technologies sont considérées comme des ensembles pratiques discursives hétérogènes, finalisées à organiser et contrôler l'activité des collectivités humaines conçues comme des populations situées dans certaines conditions environnementales. La naissance de la biopolitique coïncide, comme nous le verrons, avec la naissance de la technologie en tant que discipline autonome qui s'occupe, à côté de l'économie politique, de l'organisation sociale de la production face à l'émergence du capitalisme industriel et de son extension à l'échelle globale à l'époque de la grande expansion des empires coloniaux européens. Il s'agit de l'institution d'une nouvelle organisation du travail social médiée par les machines et d'une inédite gestion des ressources naturelles, minérales et biologiques, humaines et non humaines, qui s'articule avec le développement de nouvelles connaissances scientifiques. Cette naissance s'insère donc dans l'ensemble des transformations socio-environnementales qui sont aujourd'hui indiquées, selon les périodisations les plus courantes, comme les seuils d'émergence de ce que l'on appelle l'anthropocène, déduction faite de ces variations et problématisations conceptuelles et temporelles. Je me réfère par exemple au concept des plantations ou des négrocènes qui ont évidemment problématisé les présupposés coloniaux de l'industrialisation capitaliste. Sans doute, l'enquête sur les pouvoirs mésologiques, conçue par Foucault comme l'intervention exercée sur la population à travers les milieux, permet d'aborder au moins partiellement la corrélation structurelle entre gouvernement social et environnemental. Toutefois, les circonstances qui jalonnent notre actualité, marquées par la crise écologique, et j'évite de faire la liste de toutes les choses terribles qui sont en train d'arriver, et suggèrent d'élargir ultérieurement la perspective foucauldienne jusqu'à comprendre l'inscription des formes d'organisation sociale dans une écosphère entendue comme la composition de l'environnement physique et de la multiplicité des milieux biologiques. Pour opérer ces décentrements, je voudrais vous proposer un parcours à rebours qui permet d'aborder, à travers Canguilhem, les liens entre biopolitique, technologie, écologie. À ces propos, ce parcours nous conduira à analyser certaines sources théoriques de Canguilhem, seulement en partie partagées par Foucault, relatives à la première moitié du XXe siècle, à partir desquelles il a pu envisager les liens structurels entre technique, corps, société et milieu. Pour ce faire, une des difficultés préliminaires qui se posent concerne les rapports entre la théorie foucauldienne de l'histoire et les discours biologiques, un rapport qui présente plusieurs difficultés d'interprétation, comme Barbara Stiegler le sait bien. Ses positions sur la relation entre les sciences biologiques, les sciences humaines et les discours politiques s'expriment à travers différentes déclinaisons, basculements, transformations, sans que cette multiplicité de perspectives n'ait trouvé pour autant un traitement systématique et pleinement cohérent. Foucault polémique avec ce qu'il appelle les modèles évolutionnistes, déjà au moment de ses publications des philosophes psychologues des années 50, où nous trouvons la critique de l'extension des schémas catégoriels qu'il considère d'inspiration darwinienne au champ psychiatrique et sociologique. La référence est plutôt à Spencer. Toutefois, la polémique contre l'utilisation des métaphores biologiques dans l'explication des phénomènes culturels atteint son apogée et devient systématique suite à l'édition de Les mots et les choses. En effet, c'est dans les analyses effectuées dans son ouvrage de 1966 que nous trouvons les bases de sa conception d'une complicité fondamentale entre les théories biologiques modernes du social et la philosophie humaniste de l'histoire. À partir de ces analyses, que je ne peux pas résumer ici, vous connaissez les mots et les choses, c'est pas possible de résumer ici ces livres, mais c'est à partir de là que la polémique contre l'extension des concepts biologiques à l'historicité sociale acquiert un rôle systématique dans la définition archéologique et généalogique de la temporalité historique. dans les textes d'une conférence à Keil de 1970, pour avancer son idée d'histoire structurelle opposée à celle d'une histoire continue, Foucault fait référence à une querelle fondamentale qui a informé la naissance de l'anthropologie culturelle, celle qui oppose Franz Boas, souteneur du relativisme culturel et du particularisme historique, et de Edward Barnett Tyler, anthropologue influencé à son tour par Spencer. Alors que, je cite Foucault, les modèles d'État que Tyler s'est donné pour analyser le développement et l'histoire des sociétés, c'étaient les modèles biologiques, Boas aurait libéré l'anthropologie de ses trompeuses présupposés théoriques, en considérant l'historicité propre du social dans son caractère événementiel et singulier. Donc, la notion biologique des temps, comme forme unitaire, est remise en cause en tant que faux universel qui recule une multiplicité de durées, je cite Foucault, qui s'enchevêtrent et s'enveloppent les unes les autres. Une multiplicité de durées incidentes, mais non pas coïncidentes. Encore dans son célèbre chapitre sur Nietzsche, la généalogie et l'histoire, tout en reconnaissant les ambivalences du texte, nous retrouvons l'opposition entre la dimension événementielle de l'histoire généalogique et la linéarité progressive d'un plan biologique qui reste conçu comme un développement téléologique. Donc, dans les textes sur Nietzsche, la généalogie et l'histoire, nous retrouvons cette idée que l'histoire biologique serait, à laquelle Foucault oppose l'historicité généalogique, serait une linéarité progressive qui reste conçu comme un développement téléologique, comme l'expression d'une origine. Excusez-moi. Où il est possible de recueillir l'essence unitaire du devenir, son sens et son bout. Alors que l'histoire peut être effective, comme Foucault l'écrit, dans la mesure où elle introduira les discontinus dans notre être même, il en résulte que l'histoire généalogique, je cite, ne laissera rien au-dessus de soi qui aurait la stabilité rassurante de la vie ou de la nature. Par conséquent, nous pouvons comprendre en quel sens Foucault a pu être accusé d'avoir débiologisé la généalogie nietzschienne, et je me réfère à des textes de Barbara Stiegler, où les rapports chez Nietzsche, les rapports avec la biologie apparaîtraient moins équivoques et plus directs. Et donc, Barbara Stiegler accuse Foucault également d'avoir d'une désertion du champ épistémologique et scientifique et de ses conflits internes autour de l'historicité du vivant. Cela dit, il faut remarquer que Foucault ne se limite pas à interpréter les savoirs biologiques dans sa fonction ancillaire des soutiens et des fondements pseudo-scientifiques de la philosophie humaniste. En effet, il se réfère à plusieurs reprises aux savoirs biologiques sous des formes divergentes par rapport à la raison anthropologique moderne. Au cours de la deuxième moitié des années 60, Foucault entrevoit dans les nouvelles recherches de la biologie génétique qui s'étaient imposées en retard sur la scène française par rapport aux pays anglo-saxons, la possibilité d'une utilisation anti-humaniste de la biologie justifiée en vertu de sa colonisation par la matrice épistémologique de la linguistique et de la cybernétique. C'est là qu'il se focalise sa lecture très problématique de François Jacob, qui nécessite aujourd'hui des profondes rectifications. Et, voilà, Barbara Stiegler aussi critique cette lecture de Foucault, mais à travers le travail de Giuseppe Longo, nous pouvons bien comprendre la question du génocentrisme dont on a déjà parlé aujourd'hui. Nous la retrouvons exactement dans les thèses de François Jacob. Cette contre-lecture du rapport entre humanisme et biologie avait été déjà bouchée par Foucault dans d'autres écrits qui abordent l'émergence du savoir biologique avant sa capture par les discours humanistes et son modèle d'historicité, notamment dans Les mots et les choses autour de Cuvier et dans Les cours sur la sexualité de 1969, où nous trouvons une référence directe à Nietzsche et une lecture tragique et non pas humaniste de l'évolution darwinienne. Quelques années plus tard, Foucault semble s'intéresser, à travers la lecture de Jacques Rouffier de son livre « De la biologie à la culture », une nouvelle théorie sur la spéciation et sur la pluralité, la discontinuité et la contingence des schémas évolutifs. Rouffier était un célèbre génétiste des populations, son collègue au Collège de France, élève d'Albert Wandel, néo-lamarckien qui mériterait toute une attention à part. Et Rouffier est aussi un critique du racisme biologique à côté de Lewontine, Mayr et Stephen Jay Gould. Dans ses comprendus de 1975, Foucault s'ouvre de façon inédite à la possibilité de concevoir une biohistoire au sens d'un processus pluriel de différenciation continue, opposé à la biopolitique uniformisante des populations. la biologie cesse d'être exclusivement les corrélats d'un naturalisme réductionniste ou d'une conception homogène, continuiste ou téléologique du temps historique. Bien que ces éléments théoriques soient restés des moments isolés qui ne seront pas développés dans l'œuvre de Foucault et qui ne conduisent pas à une révision générale, ces lectures alternatives des implications théoriques de la biologie manifestent quand même une ouverture à la possibilité de conceptualiser autrement la relation entre le social, l'historique et le biologique, une possibilité qui devient une nécessité face aux transformations de la théorie évolutive dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je me réfère encore à Gould, Verba, Eldridge, etc. Par conséquent, on pourrait reconnaître que nous ne trouvons pas une débiologisation générique du discours généalogique. Foucault refuse un modèle biologique anthropomorphisé, dans lequel le concept de vie est forcé par une structure anthropologique du savoir, dans lequel il est investi des mêmes fonctions normatives que la notion de nature humaine. De plus, je crois que ces positions foucauldiennes peuvent être mieux saisies une fois situées dans leur contexte intellectuel. Tout d'abord, il faut considérer la longue hégémonie néo-lamarckienne dans le milieu scientifique français, une tradition qui s'était montrée profondément hostile au modèle évolutionniste darwinien ou aux éléments qui en étaient réadoptés par les néo-darwiniens et au rôle qui jouait la discontinuité aléatoire de la variation. Les néo-lamarckiens proposaient plutôt un modèle d'évolution téléologique caractérisé continuité, unité et progrès qui aboutit à l'homme. C'est dans le cadre de ces néolamarquismes que nous pouvons comprendre la convergence de l'évolutionnisme et de l'humanisme dans la culture française après la Deuxième Guerre mondiale. Nous nous référons surtout à la deuxième phase de la vague néolamarckienne. Je reprends les études de Laurent Loison, qui a beaucoup travaillé sur le néolamarckisme, qui distingue ces deux phases. Il y a une première phase plus mécaniste et une deuxième phase plus humaniste et téléologique. La polémique contre les modèles biologiques se confirme comme un autre aspect de sa polémique contre les philosophies humanistes et la conception dialectique de l'histoire, dont la diffusion en France passe aussi par le néolamarckisme. Comme deuxième point, il faut aussi considérer que l'opposition entre historicité structurelle et modèle biologique continuiste avait été déjà proposée par Lévi-Strauss et Louis Althusser. Pour ce qui concerne Althusser, il y a plusieurs symétries entre la conception archéologique et structurelle de l'historicité, exposée autour de les mots les choses et de l'archéologie du savoir, et la théorie du temps historique, exposée par Louis Althusser et Étienne Balibar dans Lire les Capitales, à partir de leur opposition commune à l'utilisation des modèles dérivés de la biologie. Chez Althusser, nous trouvons une polémique systématique contre les emplois abusifs de la théorie évolutionniste dans la construction de ce qui doit être considéré, selon lui, comme une théorie marxiste de l'histoire, en s'opposant radicalement, exactement comme Foucault, à la philosophie dialectique de l'histoire et une conception déterministe du progrès historique. Seulement à la fin de son œuvre, dans les réflexions sur les matérialismes aléatoires, nous trouvons des ouvertures d'Althusser vers une considération différente de la temporalité biologique et de ses possibles analogies avec l'historicité sociale. Et sûrement, ces différentes positions viennent de la médiation de son élève Dominique Lecour, qui travaille aussi avec Canguilhem et qui vient malheureusement de disparaître. Chez Lévi-Strauss, dans sa célèbre Anthropologie structurelle de 1958, nous rencontrons déjà, dans l'introduction à l'ouvrage, la référence à la polémique de Boas contre les thèses spencériennes de Taylor. Selon Lévi-Strauss, les travaux de l'anthropologue allemande montrent qu'il ne faut pas rechercher des généralités biologiques ou psychologiques, des formes universelles ou une tendance globale de l'histoire des cultures. Boas et son école, écrit Lévi-Strauss, ont donc raison de recuser la notion d'évolution. On pourrait contester cette lecture de Boas, mais voilà, on passe. Toutefois, dans Race et Histoire, essai écrit sur proposition de l'UNESCO en 1952, il définissait comme faux évolutionnisme la lecture progressiste et hiérarchique du cours évolutif, toujours contre Spencer et Taylor. Et par ailleurs, chez Lévi-Strauss, nous trouvons également la proposition d'une vision alternative de l'évolutionnisme et des possibles rapports entre sciences biologiques et anthropologie centrés sur les mutations discontinues. possibilité qu'il aborde en son tour, surtout à travers les liens entre génétique, linguistique et science de la communication. C'était un peu la conjoncture épistémologique des années 60 qui un peu, voilà, tout le monde soutenait un peu cette même nouvelle science humaniste. L'opposition au modèle biologique en histoire, nous la retrouvons enfin chez les historiens des annales, qui représentent un sujet de confrontation théorique et méthodologique constant pour Foucault. Tous les historiens de cette école étaient d'accord sur le refus de ce que Marc Bloch appelait l'obsession embryogénique de la pensée historique, pour laquelle les origines sont un commencement qui explique, en présupposant un modèle normatif du développement selon lequel l'origine d'un processus contient et contraint la démarche historique successive. La critique occulte du fait de l'historiographie allemande de Ranke, que Nietzsche stigmatisait à son tour comme un modeste avocat des faits, ou à l'histoire historisante, continuiste, progressive, était un objectif polémique récurrent de Bloch et Fèvre. Comme le résume de façon efficace Fernand Braudel, en accord avec Georges Gourvitch, nous ne croyons pas à la valeur d'une philosophie de l'histoire qui serait l'essence d'une sociologie appliquée à dégager et à fixer, au-delà de l'accidentel, l'évolution de l'humanité, en devenir prémédité comme biologique, qui ne présente ni rupture, ni discontinuité, ni innovation, ni scandale. Fin de la citation. En même temps, et encore une fois, l'école des annales ne refuse pas pourtant les contaminations entre historiographie et biologie. Au contraire, comme il a été reconnu, la biologie constitue un modèle épistémologique de référence du travail historiographique pour Bloch, Fèvre et Braudel. Pour Braudel, la nouvelle histoire, tout en reconnaissant les rythmes différentiels, les couches asynchroniques, ce sont des citations, les couches asynchroniques du temps historique, doit retrouver les jeux multiples de la vie, tous ces mouvements, toutes ces durées, toutes ces ruptures, toutes ces variations. Je cite la partie du texte sur la longue durée. Ou encore, comme il l'écrit, la vie d'une société est dans la dépendance des facteurs physiques et biologiques. Elle est en contact, en symbiose avec eux. Il modèle, aide ou gêne sa vie, donc son histoire. Non pas toute cette histoire, mais une partie, celle pour laquelle nous proposons les mots « géo-histoire ». Lucien Fèvre, à son tour, s'orientait déjà à partir des années 20 à la complexité de l'interaction réciproque entre les activités sociales et les milieux biophysiques. Je me réfère au livre « La Terre et l'évolution humaine, introduction géographique à l'histoire » de 1922. Et nous reviendrons sur Lucien Fèvre très tôt. Je voudrais rappeler que c'est encore dans les sillages de cette approche biogéographique à l'histoire que les annales ont continué à travailler et ont publié en 1969 un célèbre numéro spécial qui portait le titre « Histoire, biologie, société ». Dans la préface du dossier, nous pouvons lire « L'intérêt récemment porté aux différents secteurs de ce qu'il faut appeler très imparfaitement l'histoire matérielle, consommation alimentaire, nosologie, anthropologie physique, démographie, comportement sexuel, ne relève pas une mode, comme l'affirme certain esprit attardé, mais la volonté de suivre l'homme pas à pas dans la complexité du tissu historique. Enfin, ces disciplines jeunes que nous interrogeons ont l'avantage d'entamer les dialogues les plus difficiles, peut-être les plus importants, celui des sciences humaines et des sciences médicales. » Fin de la citation. Et encore, nous pourrions rappeler les dossiers thématiques des annales sur histoire et environnement, édité en 1974. Il me semble assez évident, ou au moins c'est mon hypothèse, que ces contextes intellectuels constituent une référence très importante pour Foucault, pour les Foucault des années 70 et les Foucault des cours sur les gouvernements biopolitiques et mésologiques. Pour lui aussi, il s'agit d'enquêter, je cite, cette position double de la vie qui la met à la fois à l'extérieur de l'histoire, comme son entour biologique, et à l'intérieur de l'historicité humaine, pénétrée par ces techniques de savoir et de pouvoir. Fin de la citation. Refuser ce qu'il appelle les modèles biologiques en histoire ne signifie pas nier l'enchevêtrement du biologique et de l'historique, du social et de l'environnemental, mais l'interroger sous une perspective différente qui concerne les aventures du corps, pour le dire avec Marc Bloch, dans des conjonctures historiques et politiques spécifiques. les corps façonnés par l'histoire, mais jamais passifs et condamnés à réfléchir les conditions posées par le milieu social. Au moment de ses cours au Collège de France, Foucault ne montre pas une conception débiologisée des rapports de pouvoir, tant en entomopolitique que biopolitique. C'est plutôt Althusser qui conçoit le passage de la manufacture à l'industrie comme un détachement du travail social médié par les machines par rapport à ses conditions de possibilité biologique et somatique, à la faveur d'une puissance surnaturelle de production, je cite lui Althusser, qui aurait franchi la contrainte du corps. Voilà, c'est vraiment chez Althusser, je pense que nous trouvons très directement cette idée débiologisée de la société industrielle, parce que l'industrie, ce nouveau travail social permet vraiment de dépasser les contraintes du corps. Et chez Foucault, je pense que c'est un peu plus nuancé la question. Voilà, en passant à Canguilhem, l'école des annales constitue une référence fondamentale également et encore plus pour lui, déjà à partir du début des années 30. Avant d'aborder ces bases conceptuelles, je pense que pour comprendre la dimension écologique des transformations politiques modernes, il est nécessaire de saisir les liens, comme je le disais, entre la naissance de la biopolitique, la révolution industrielle et la naissance épistémologique de la technologie. Pour faire cela, nous pouvons lire les résultats d'une série de séminaires dirigés par Canguilhem entre 1963 et 1965, édités par Guilherme, Sebestik et Maurer. Les termes technologie acquièrent une diffusion inédite dans les domaines français, anglais et allemand entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, en se spécifiant de plus en plus pour indiquer une nouvelle discipline concernant la science des arts industriels qui accompagne la naissance de l'économie politique moderne. Avec la mise en place progressive de la production industrielle et de ses infrastructures, on assiste à un rassemblement de réflexions sur les machines déjà diffusé dans les traités du XVIIIe siècle, dans un édifice théorique cohérent, je cite les auteurs, qui voit dans la technologie la science de l'application des savoirs aux besoins de la société. La technologie est une science des processus de production finalisée, je cite, à la normalisation systématique des éléments de la production, hommes et machines, par une application méthodique des concepts scientifiques. Une transformation qui engage une nouvelle hubris, je cite encore, des ingénieurs technocrates, qui jouent un rôle prépondérant dans la planification scientifique et économétrique du milieu sociotechnique. La technologie est donc les discours rationalisant les procédés techniques dans une organisation politique du travail. En fait aussi, Karl Marx, qui joue un rôle principal dans ces séminaires, avait analysé attentivement cette nouvelle science qui légifère sur les rapports de l'homme avec sa production pour obtenir, je cite encore, une normalisation des opérations et des productions qui permet leur combinaison dans un ensemble économique complexe. Cette homogénéisation des activités productives doit être comprise non seulement dans sa dimension nationale, mais aussi et corrélativement à l'échelle globale. La technologie devient en effet centrale aussi dans les stratégies des civilisations coloniales, à travers une exportation des procédés d'exploitation et une unification des modes de production à l'échelle planétaire. Comme l'écrira plus tard Jacques Guilherme, la transparence de la langue des ingénieurs étend son exercice à l'exploitation uniforme de la terre entière, sans égard aux différences culturelles et aux inégalités économiques des divers territoires. Et j'espère avoir donné une idée qu'on a affaire avec la même période historique que Foucault indique comme naissance biopolitique. Il y a vraiment une coïncidence totale par rapport à ces deux naissances épistémologiques et ces... la biopolitique est la naissance d'une série de nouvelles technologies politiques de régulation sociale, mais c'est exactement au même moment que la technologie en tant que discipline scientifique autonome voit sa naissance. Mais revenons à Canguilhem. La question du rapport de continuité et différence entre normativité technique et normativité vitale et de la façon dont ce rapport vient à être modifié par la naissance de la technologie moderne est un problème central dans l'œuvre de Canguilhem. C'est justement à l'intérieur d'une critique de la civilisation industrielle capitaliste qu'il formule sa philosophie biologique de la technique. Se référant des figures françaises comme Espinasse, Bergson et Le Rogourin, mais aussi à la géographie humaine et historique, comme nous le verrons, tout comme une série d'auteurs allemands comme Kapp, von Hartmann, Schopenhauer et Spengler, la création technique est considérée par Canguilhem comme une extension des capacités d'intervention et des transformations du vivant à l'intérieur de son milieu, à partir des capacités projectives du corps qui constituent son ancrage fondamental et indépassable. Tout développement technique et technologique s'enracine généalogiquement dans les domaines de l'expérience vitale, qui est le règne des hypothèses, de l'erreur, de la volonté et des besoins. Cette vision de la technique s'inscrit dans un regard philosophique et politique orienté sur les questions du travail et de son organisation sociale, comme le montrent déjà les écrits des années 30 et 40. Ici, nous trouvons la critique de la modernisation technologique fasciste et de son impact sur les formes de vie paysanne, ou encore la critique, conduite aux côtés de George Friedman, de la façon dont l'organisation tayloriste du travail prétendait adapter les fonctions et les rythmes du corps à la machine. Les thèses de Canguilhem, donc, ne concernent pas seulement les rapports entre la technique et la vie, mais aussi et inséparablement les rapports entre corps et travail, entre technologie, société et milieu. La philosophie biologique de la technique est en même temps une philosophie politique de la technologie. En ce sens, une des tâches essentielles de la philosophie biologique, comme Canguilhem l'écrit, est de réinscrire les mécanismes dans l'organisation vivante comme une condition nécessaire d'antériorité. Ou encore, il écrit, tenir l'antériorité de l'organisation biologique et donc de la normativité vitale dans sa pluralité et irrégularité, comme une des conditions nécessaires de l'existence et du sens des constructions mécaniques. Fin de la citation. À l'occasion de sa conférence à Strasbourg de 1973, une des rares occasions où il affronte directement les débats naissants sur l'écologie, nous lisons une autre formulation importante de ses thèses. Si l'on accepte d'appeler technosphère l'ensemble des productions de la technique qui constituent pour l'homme des sociétés industrielles son environnement le plus proche et le plus présent, il est certain que la technosphère est inscrite au sens géométrique du terme dans la biosphère. Fin de la citation. Ce concept d'inscription indique à la fois l'antériorité et la continuité entre biosphère et technosphère, sans toutefois affirmer leur coïncidence. Il peut donc poursuivre, il est certain que la croissance exponentielle des besoins énergétiques dans les sociétés industrielles, énergie alimentaire, énergie motrice, est à terme incompatible avec la limitation des ressources organiques et minérales offertes à l'espèce humaine par son support terrestre. Si ce concept de support terrestre serait intéressant à analyser. Canguilhem soulève des problèmes qui continuent à être au centre du débat écologique et politique actuel. Notamment, ces passages nous paraissent très proches du célèbre thème marxien repris par le biochimiste Justus von Liebig de la rupture métabolique, qui est au centre de la relecture avec laquelle Bellamy Foster a relancé le débat sur les rapports possibles entre marxisme et écologie politique, en vertu de la reconnaissance du lien étroit entre les pillages de l'ouvrier et les pillages de la terre perpétrés par le capitalisme industriel et par son idéologie catastrophique d'une croissance illimitée. La naissance de la biopolitique coïncide donc avec la naissance de la technologie et avec le déclenchement de la rupture écologique, comme l'appelle Jean-Paul Deléage, provoquée par l'industrialisation capitaliste. Biopolitique et technologie s'en sert dans l'ensemble des transformations socio-environnementales que nous interrogeons aujourd'hui sous le nom d'Anthropocène et de ses variantes conceptuelles et historiques. Pour terminer, je voudrais revenir au lien entre Canguilhem et les historiens et sociologues des annales, Fèvre, Bloch, Albwachs, Friedman, Rupnel. Rupnel est très, très central dans son écrit sur le fascisme et les paysans. Et donc à la première moitié du XXe siècle. À travers les thèses que nous avons analysées, Canguilhem manifeste un rapport théorique profond avec l'approche géographique à l'histoire des sociétés, qui pour lui arrive à se référer directement à la géographie humaine de Vidal de la Blache et de ses élèves de Mangeon et Brun. À partir de cet archipel théorique, nous pouvons reconnaître l'arrière-plan géographique et écologique de son attention à l'interdépendance entre corps, technique, société et environnement. La géographie humaine peut être en fait considérée comme une des ramifications françaises de la théorie écologique. des liens entre géographie humaine et écologie, vous en tant que science biologique, je dirais biohistorique et écoévolutive au sens darwinien, est très étroit et c'est Vidal de la Blache lui-même qui les souligne. Il reprend directement la leçon de l'écologie selon la définition de Haeckel, c'est-à-dire en tant que science qui étudie, je cite, les mutuelles relations de tous les organismes vivants dans un seul et même lieu et leur adaptation au milieu qui les environne. Pour affirmer la continuité entre écologie et géographie humaine, il ajoute les mots suivants. En somme, ce qui se dégage nettement de ces recherches de l'écologie, c'est une idée essentiellement géographique. C'est celle d'un milieu composite, doué d'une puissance capable de grouper et de maintenir ensemble des êtres hétérogènes en cohabitation et corrélation réciproque. Chaque contrée représente un domaine où se sont artificiellement réunis des êtres disparates qui s'y sont adaptés en vie commune. Je cite les principes de géographie humaine qui a été publié posthume en 1922. Sûrement, ces liens avec les formations discursives de l'écologie naissante et avec les contextes politiques qui l'accompagnent se manifestent également dans la réforme coloniale qui caractérise l'approche de Vidal de la Blache. Je ne peux pas m'arrêter sur ces aspects d'autre part très significatifs du rapport historique entre l'émergence de l'écologie et la gestion des territoires colonisés, question sur laquelle je me limite à rappeler les travaux fondateurs de Richard Grove et plus récemment des historiens du centre Alexandre Coiré, que si Ferrat a cité plusieurs fois. Par-delà donc toute apologie de la géographie humaine, je trouve toutefois que dans ces milieux intellectuels, nous trouvons des éléments théoriques qui ne peuvent pas être sous-estimés. L'œuvre de Vidal de la Blache a marqué profondément la vie intellectuelle française. Il fonde une discipline qui se pose comme une véritable alternative à l'école sociologique durkheimienne. Tout d'abord, l'approche antidéterministe de Vidal de la Blache contre l'anthropogéographie de Ratzel voit dans l'homme, je cite, « un être doué d'initiative plutôt qu'un être subissant passivement les influences extérieures ». L'homme, poursuit Vidal de la Blache, a un rôle géographique. Il est un facteur géographique, question très débattue récemment, mais en réalité assez ancienne. Je cite encore, la nature est pour lui, la nature est pour lui une source de sollicitations. La montagne, les fleuves, l'île, chacune de ses formes terrestres met aux prises son ingéniosité avec des nécessités spéciales d'existence. Ce possibilisme, comme l'appellera Lucien Febvre, n'est pas une négation des contraintes du milieu naturel, sans toutefois considérer ces contraintes comme une détermination univoque. À travers les concepts des genres de vie, Vidal de la Blache soutient un pluralisme adaptatif centré sur l'inventivité des solutions locales aux potentialités et aux obstacles posés par l'environnement. Cette coappartenance d'activité-passivité ne peut pas être déchirée. À la différence de la sociologie de Durkheim, la géographie humaine trouve dans la biologie évolutive une matrice théorique fondamentale, développée contre toute forme de réductionnisme ou de déterminisme. Comme l'écrit Vidal de la Blache, la géographie doit se confronter avec une, je cite, « absence d'homogénéité qui est la règle ». La géographie humaine concerne des multiplicités locales. Elle est une idéographie historique des relations entre société et environnement en tant qu'extension du rapport entre vivant et milieu. Toujours entendre au pluriel. Le possibilisme est déjà, comme Canguilhem ne manque pas de le relever, une théorie de la normativité et du pluralisme normatif à la fois biologique, technique et anthropologique. Comme nous le savons, Lucien Febvre, de différentes manières et mesures aussi son collègue et cofondateur de la Revue des Annales, Marc Bloch, les deux ont sûrement repris l'approche vidalienne. Lucien Febvre écrit dans les 1922 l'ouvrage magistral que nous avons déjà cité, « La Terre et l'évolution humaine, introduction géographique à l'histoire ». Comme nous pouvons le lire dans ce texte, juste pour saisir un morceau de cette continuité, « Pour agir sur le milieu, l'homme ne se place pas en dehors de ce milieu ». Il n'échappe pas à sa prise au moment précis où il cherche à exercer la science sur lui. Et la nature, qui agit sur l'homme, d'autre part, la nature qui intervient dans l'existence des sociétés humaines pour la conditionner, ce n'est pas une nature vierge, indépendante de tout contact humain. C'est une nature déjà profondément agie, profondément modifiée et transformée par l'homme. action et réaction perpétuelle, car dans ces relations, l'homme emprunte et restitue à la fois. Le milieu donne, mais reçoit aussi. Fin de la citation. La complexité de l'interaction réciproque entre les activités sociales et les milieux biophysiques nécessite une compréhension située et capable de saisir cette relation dans ses différences historiques et ses caractéristiques singulières, comme Franz Boas s'est proposé de le faire, lui aussi en contraste avec Ratzel, contre les déterminismes biologiques ou géographiques dans les champs de l'anthropologie. Cette proximité pose des problèmes face à la posture polémique que Boas assume envers les thèses de Vidal de la Blache. Je ne sais pas si quelqu'un est expert de Boas, mais Boas a critiqué Vidal de la Blache. La clé du problème, je pense, est que pour Boas, l'anthropologie doit se situer dans les Kulturwissenschaften, en confinant les sciences de la nature, au moins en partie, à l'intérieur d'un paradigme mécaniste déterministe. Pour Vidal de la Blache, la géographie humaine peut se lier aux sciences de la nature, mais il conçoit ces dernières sous un paradigme biologique, bioévolutionniste et antidéterministe. En ce sens, Fèvre pourrait lier les thèses de Vidal de la Blache à la philosophie de la vie de Bergson et à l'élan créateur du vivant, bien qu'il porte une attention différente aux contraintes à partir desquelles cet élan peut s'exprimer. Comme le résume Silvia Caglianiello, c'est une chercheuse directrice de recherche du CNR en Italie formidable, l'école des annales visait une méthode pour analyser la constitution spécifique des sociétés humaines dans leur interaction à un espace particulier, non plus donc dans les termes d'une démarche de dénaturalisation de la configuration humaine vis-à-vis d'une nature conçue comme un déterminisme biologique, comme pur l'historicisme, mais plutôt comme relation écologique à un environnement particulier donné et à ses ressources. En effet, la relation entre corps, technique, société et milieu envisagée par les historiens des annales, encore plus dans la version de Fèvre et Brodel plutôt que dans la version de Leroy Ladurie, pour laquelle il s'agit d'étudier l'environnement sans l'homme, a été reconnue comme une approche pionnière dans l'histoire, par l'histoire environnementale qui vient s'affirmer à partir des années 70. Canguilhem trouve à son tour dans cette pensée bio-géo-historique l'occasion pour réfléchir aux relations normatives, actives, transformatrices, mais aussi contraignantes, entre vivant et milieu, et à la relation constitutive, mais non pas déterministe ou essentialiste, entre les biologiques et les sociales. C'est à partir de cette approche géographique ou sociale qu'il peut affirmer l'inscription de la technosphère dans la biosphère. Et encore, pour remarquer ultérieurement l'importance de cette matrice théorique, on peut reconnaître que l'opposition de Canguilhem à Comte par rapport à l'organisme social et à Durkheim par rapport à sa conception de la régulation sociale et de la norme passe certainement par Weber et Aron, et donc par Nietzsche, mais aussi par la géographie humaine et historique de Vidal, de la Blache et de Lucien Febvre. Leur pluralisme biogéographique représente une véritable alternative théorique à la séparation du biologique et du social, ou du social et de l'environnemental chez Durkheim. Je rappelle également que le concept des genres de vie est réemployé par les géographes marxistes proches de Friedman, Pierre Georges, au sens des modes de production, ce qui engage évidemment toute une autre dimension socio-écologique et politique du problème. Quand Canguilhem propose sa philosophie biologique de la technique et sa critique du mode de production technologique du capitalisme, il est en train de penser encore la relation socialement structurée entre technique, corps, travail et travail, entre genre de vie et milieu. Cela dit, et vraiment pour terminer, il faut remarquer que Canguilhem, avec sa théorie de la normativité plurielle et des milieux, très liée entre elles, propose un ulterior et fondamental geste théorique. Il étend les possibilismes géographiques au sens d'un perspectivisme radical qui embrasse non seulement l'humain, mais les vivants dans l'hétérogénéité de ses conditions environnementales, physiologiques et subjectives d'existence. Il construit une synthèse cohérente entre la théorie des genres de vie de Vidal de la Blache et la théorie des Umwelten de Jakob von Uexküll. Il ouvre ainsi sa philosophie biologique en perspectivisme éthologique, mais aussi culturel à travers Lévi-Strauss, qui dépasse les cadres anthropocentré et colonial de Vidal de la Blache et qui était encore celui de Fèvre. J'aurais voulu montrer la valeur de cette réflexion canguilhémienne par rapport aux théories scientifiques et aux technologies gouvernementales qui se sont affirmées au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, à partir de la théorie des écosystèmes jusqu'à l'écologie globale. Mais il s'agit d'une question qui déborde l'objet de ces colloques et les temps ainsi que les temps à disposition. J'espère au moins d'avoir donné quelques repères préliminaires qui montrent comment la philosophie biologique des canguilhèmes, en considérant l'homme comme un agent géographique situé dans des conditions d'existence bio-environnementale et sociale toujours spécifiques, permet de réinterroger, dans une perspective socio-écologique et éco-historique, l'espace d'intervention des technologies biopolitiques. Merci pour votre attention.